De l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 13 juin 2014, chez Robin Dorsil et Idrissa Seloudia en votre compagnie. Au sommaire ce soir, Idrissa.
En RCA, appel à un cessez-le-feu immédiat, préalable au dialogue national.
C'est l'impunité qui est toujours à l'origine de toutes les crises que nous cessons de vivre. Et cette fois-ci, cette crise est chaotique.
L'Union européenne appelle à créer un climat de confiance entre toutes les parties avant les élections en République démocratique du Congo.
Irak, Barack Obama refuse d'envoyer des troupes américaines malgré la progression fulgurante des djihadistes.
Et nous aurons le segment spécial sur la Coupe du Monde. Déception de la première équipe africaine à évoluer dans cette compétition. Le Cameroun baisse pavillon face au Mexique. Et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, fin hier à Bangui des travaux préparatoires du prochain dialogue national, les participants ont recommandé un accord de cessez-le-feu immédiat, la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Le point avec Idriss Fall.
Après 3 jours de discussion, le panel a proposé un schéma différent des précédents dialogues. Il a recommandé d'abord un accord de cessez-le-feu immédiat, l'organisation de la réconciliation interbelligérante, la prise en compte de tous les mouvements, ex-Seleka, anti-Balaka, groupes d'autodéfense et même les forces armées centrafricaines. La mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation. Bruno Yacinthe Bieba, un représentant de la société civile à ses travaux.
C'est l'impunité qui est toujours à l'origine de toutes les crises que nous cessons de vivre. Et cette fois-ci, cette crise est chaotique. C'est pour cette raison que tous les participants ont résolu à recommander, entre autres, au cours de ce dialogue, qui est le droit de savoir. Et dans le droit de savoir, vous aurez cette articulation, à savoir la commission vérité, justice et réconciliation. Parce que le peuple centrafricain a le droit de savoir ce qui s'est passé, de connaître la vérité, qui est la justice, et aussi maintenant indemniser toutes les victimes. À ce moment-là, il y aura vraiment une réconciliation.
Par ailleurs, beaucoup d'habitants de Bangui sont très fâchés contre l'unique société de distribution de l'électricité. Il y a eu coupure de courant dans plusieurs quartiers pendant l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil. NRK est appelé à revoir son calendrier de délestage. Et la société, de son côté, a promis de tout faire pour rectifier le tir pour permettre aux fans du ballon rond de suivre la grande fête du football mondial.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'attaque du domicile du ministre de l'Intérieur qui avait fait 4 morts parmi sa garde. C'est la première fois que le groupe djihadiste fait une revendication en Tunisie. Écoutons Issa Napon.
Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué les récentes attaques contre le domicile du ministre de l'Intérieur, Lotfi Ben Jidou, qui en était absent. L'organisation djihadiste promet de recommencer jusqu'à abattre le ministre. Depuis plus d'un an, les autorités tunisiennes mènent une offensive contre les islamistes radicaux dans les montagnes de Kasserine, à la frontière avec l'Algérie. L'organisation djihadiste dénonce les mêmes politiques répressives que celles menées par l'ancien régime Ben Ali. Pour les djihadistes, lorsqu'on entre en guerre contre l'islam, il y a un prix à payer. Ils ont donc rendu coup pour coup jusqu'à l'attaque fin mai du domicile du ministre où 4 policiers ont été tués. Le ministre Ben Jedou a indiqué aujourd'hui que malgré toutes ces menaces, la traque des terroristes se poursuivra dans le nord-ouest de la Tunisie.
En Afrique du Sud, après 5 mois de grève dans les principales mines de platine, un compromis a été trouvé entre syndicats et patronats pour sortir de l'impasse. Lionel Gahima.
Le syndicat radical a accepté l'accord de principe avec le patronat sur les salaires. Joseph Matunjoua de l'AMCU a déclaré qu'ils ont accepté l'offre, mais il y a encore des questions qui méritent discussion avec le patronat. Cet accord devrait permettre une reprise de travail le 1er juillet chez Lonmine, l'une des 3 entreprises concernées. Le syndicat a accepté les détails de la nouvelle grille de salaire pour plus de 70 000 mineurs qui étaient en grève depuis le 23 janvier. Selon les médias locaux, ils ont accepté une augmentation de 1 000 rands par mois tous les ans pendant 3 à 5 ans selon les catégories. Les mineurs les moins qualifiés gagnent actuellement autour de 5 000 rands par mois, environ 345 euros, primes et allocations diverses non comprises, et revendiquaient le double du salaire actuel.
La mission de suivi électoral de l'Union européenne a appelé ce vendredi à un véritable dialogue en République démocratique du Congo afin de créer un climat de confiance entre toutes les parties impliquées dans les élections. C'est ce qu'a déclaré, selon l'agence France-Presse, la députée européenne Maria Gabriel à la tête de la délégation qui séjourne à Kinshasa depuis une semaine.
Les autorités ivoiriennes trouvent qu'il y a relâchement de la vigilance dans leur pays. Face à la fièvre Ebola, aucun cas n'a pour l'instant été signalé en Côte d'Ivoire, mais les recommandations visant à éviter de consommer ou manipuler de la viande de brousse ne sont plus suivies. La fièvre Ebola a fait en Guinée voisine plus de 200 morts depuis ses débuts en janvier.
Des enquêteurs du gouvernement américain annoncent que quelques 15 Somaliens américains se sont rendus récemment en Syrie pour se joindre aux islamistes qui tentent de renverser le gouvernement du président Bachar al-Assad. Des agents du FBI ont fait le constat à Minneapolis-Saint-Paul, dans le Minnesota, où vit une importante communauté somalienne. Les autorités essaient de savoir comment on a pu radicaliser ces jeunes Somaliens américains.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant se rapprochent de la capitale. Le président américain Barack Obama a exclu aujourd'hui l'envoi de troupes américaines. Jacques Aristide.
Le chef de la Maison-Blanche a rappelé que son équipe de sécurité nationale étudiait toutes les options.
I have asked my national security team to prepare.
Barack Obama d'ajouter que l'enjeu est de s'assurer que les djihadistes ne s'installent pas de façon permanente en Irak ou en Syrie. Une déclaration qui intervient après la progression rapide et dangereuse de l'EIIL, malgré la réplique de l'armée irakienne. Après avoir conquis pratiquement tout le nord, les djihadistes ont pris Jalala et Saadiyya, deux villes dans l'est du pays, non loin de Bagdad. L'inquiétude est à son apogée, à tel point que l'ayatollah Ali al-Sistani, le plus haut dignitaire religieux chiite d'Irak, a appelé la population chiite à prendre les armes contre les combattants sunnites de l'EIIL. Le Premier ministre a été accusé d'incompétence, mais pour Nouri al-Maliki, les rebelles n'ont pas pu agir seuls. Il a demandé à toutes les tribus d'apporter leur soutien militaire à l'armée et à la police.
Bo Bergdahl, le sergent de l'armée américaine qui a été détenu près de 5 ans par les talibans en Afghanistan, est de retour aux États-Unis. Bagassi Koura.
Le sergent Bo Bergdahl a été traité dans un hôpital militaire en Allemagne. Il est arrivé ce matin dans un complexe militaire hospitalier de San Antonio, au Texas. Le Pentagone a déclaré qu'il bénéficiera des soins, du temps et de l'espace dont il a besoin pour son rétablissement. Le soldat Bergdahl a été libéré il y a 2 semaines après un échange avec 5 talibans afghans qui étaient détenus à la prison américaine de Guantanamo Bay à Cuba. Le cas de Bergdahl a suscité un vif débat ici aux États-Unis. Certains législateurs américains ont critiqué M. Obama pour la libération des talibans et d'autres lui reprochent d'avoir ignoré la loi disant que le Congrès doit donner un préavis de 30 jours avant la libération des prisonniers de Guantanamo.
En Ukraine, les forces gouvernementales ont repris le contrôle de Mariupol, ville portuaire de la région de Donetsk, qui a changé de main plusieurs fois durant le conflit. Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, les forces de Kiev ont hissé le drapeau national ce vendredi sur le bâtiment municipal. Selon les séparatistes pro-russes, 5 de leurs soldats sont tombés au combat. D'autre part, le porte-parole du Kremlin a affirmé que des blindés ukrainiens ont franchi la frontière avec la Russie et ont été interceptés alors que Kiev avait formulé les mêmes accusations.
En Thaïlande, le chef de la junte, le général Prayut Chan-o-cha, a fixé une date limite pour la formation d'un gouvernement intérimaire. D'ici le mois d'août, mais pas plus tard qu'en septembre, un gouvernement sera établi, a déclaré le général Prayut ce vendredi devant des hauts gradés thaïlandais. Par ailleurs, la junte a annoncé la levée du couvre-feu dans tout le pays 3 semaines après le coup d'État. Selon les militaires, c'est réduire l'impact sur la vie des citoyens et promouvoir le tourisme.
Un sommet de 4 jours sur les violences sexuelles a pris fin aujourd'hui à Londres. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dit aux délégués qu'il faut dénoncer cette pratique injuste, poursuivre les criminels et mettre fin à l'impunité. La conférence a réuni des responsables gouvernementaux, activistes et survivants du viol venant d'une centaine de pays.
Voilà pour le journal. Il est bientôt 18h40 en temps universel, 14h40 ici à Washington. Chez Robin Dorsil et Idrissa Seloudia, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, notre magazine.
Les États-Unis examinent un vaste éventail d'options en réponse à la progression des djihadistes de l'État islamique en Iran, en Irak et au Levant, qui se sont déjà emparés d'une bonne partie du nord de l'Irak et menacent de descendre sur Bagdad, la capitale. Pour leur part, les forces armées irakiennes se sont pratiquement évaporées. Idriss Fall.
Ces succès foudroyants de l'État islamique en Irak et au Levant sont considérés comme un développement très embarrassant pour Washington. Les États-Unis ont consacré quelque 25 milliards de dollars à l'entraînement et l'équipement de l'armée irakienne depuis 2003 suite à l'invasion de l'Irak. Le président Barack Obama a exclu tout envoi de troupes américaines au sol, mais a souligné que toutes les options sont ouverte, mais certains spécialistes estiment qu'elles sont très limitées car le président a rapatrié les troupes américaines d'Irak il y a seulement 2 ans et demi. Une des options pourrait être le recours aux drones contre les djihadistes irakiens, mais pour le professeur Stéphane Zunes de l'Université de San Francisco, ces drones ont aussi leurs limites. Ce n'est pas une question de liquider une poignée de méchants et leurs différents repères. Nous parlons ici de milliers d'hommes armés qui contrôlent de vastes territoires, dont certains grands centres urbains. Une autre option pourrait être de fournir plus de formations d'armes et de renseignements aux forces en désarroi du premier ministre Nouri al-Maliki, mais là encore, il y a des risques. Le professeur Zunes, les soldats irakiens sont-ils vraiment décidés à barrer la route aux djihadistes?
You can arm and train the local government's armed forces.
Vous pouvez armer et entraîner les forces armées d'un gouvernement local tant que vous voulez, mais s'il s'agit toujours de savoir s'ils sont prêts à se battre et à mourir pour le gouvernement, malheureusement, le gouvernement d'Al-Maliki s'est mis à dos tant de gens dans le pays qu'il ne semble pas avoir assez de soutien populaire pour que les soldats soient prêts à sacrifier leur vie. Malgré tout, Andrea Krieg du King's College à Londres estime que l'armée irakienne, malgré ses insuffisances actuelles, reste la meilleure option face aux djihadistes. Selon lui, il suffit de la renforcer d'une façon ou d'une autre. Seulement, une armée ne se reconstruit pas en un jour, surtout après une débandade face à la progression fulgurante des islamistes.
Le sommet sur l'éradication de la violence sexuelle dans les conflits s'est terminé aujourd'hui à Londres. Le point avec Michel Joseph.
La rencontre a abouti à la publication du protocole international sur la documentation et l'investigation de la violence sexuelle dans les conflits afin de briser la culture de l'impunité. William Hague, ministre britannique des Affaires étrangères.
Nous estimons que le temps est venu de mettre fin à l'utilisation du viol en temps de guerre, une fois pour toutes. Et nous pensons que c'est possible. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une question cruciale de paix et de sécurité internationale dans la prévention des conflits, qu'elle est essentielle à l'avancement des droits des femmes partout dans le monde, et surtout que c'est une question morale pour notre génération.
L'actrice américaine Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté pour le HCR, a co-présidé le sommet.
J'ai rencontré des survivants de l'Afghanistan à la Somalie et ils sont tout comme nous, avec une grande différence. Nous vivons dans des pays sûrs, avec un accès à des médecins quand nous sommes blessés, un accès à la police quand on nous a fait du tort et un accès à des institutions qui nous protègent. Ils vivent dans des camps de réfugiés ou dans les rues bombardées, dans des zones où il n'y a pas de loi, pas de protection et pas même l'espoir de justice. Ils luttent pour protéger leurs enfants. Et souvent, quand les victimes parlent, elles font face à encore plus de violence et sont rejetées par la société.
Pour le ministre nigérian des Affaires étrangères, Aminu Wali, il est impératif d'inclure les femmes dans les processus de médiation et de consolidation de la paix et que les victimes reçoivent des réparations.
La violence sexuelle dans les conflits ne peut pas être éradiquée par des pays agissant seuls, de manière isolée. Il faut une coordination stratégique entre les pays.
La directrice de la PNUD, Helen Clark, estime que cette lutte ne peut être menée sans volonté politique.
Nous savons très bien que la violence contre les femmes ne s'arrête généralement pas à la fin d'un conflit. Dans l'est de la RDC, nous avons soutenu les autorités à enquêter sur des centaines de cas de violence sexuelle et à traduire les auteurs devant la justice.
Elle a appelé les gouvernements à lutter contre ce fléau, non seulement dans les zones de conflit, mais également en temps de paix.
Des années de sécheresse exposent la Californie cette année à de sérieux risques de feux de forêt. Les sapeurs-pompiers locaux se préparent à toute éventualité. Les précisions de Timothée Donangmaï.
De fortes températures ont contribué au mois de mai à la propagation de feux ravageurs près de San Diego, bien avant le début de la saison des incendies. Il faut dire que ces trois dernières années ont été particulièrement sèches en Californie, 2013 ayant battu tous les records. Du coup, la végétation extrêmement sèche n'attend que la moindre étincelle pour s'enflammer, explique le capitaine Richard Cordova, porte-parole du département des forêts et de la lutte contre les incendies de Californie.
When we have higher temperatures, lower humidity,
lorsque nous avons de hautes températures, un faible taux d'humidité, et lorsque vous y ajoutez du vent, vous avez la recette pour un danger extrême d'incendie. Et lorsque nous voyons ces trois éléments se combiner, nous commençons à acheminer les équipements. Dans la base de lutte anti-incendie de la ville californienne de Hemet, une unité aérienne s'entraîne. Des hélicoptères acheminent le personnel sur les lieux des sinistres et des avions-citernes déversent des trombes de produits retardants à partir du ciel. Pilotes et sapeurs-pompiers ont leurs sacs et leurs avions prêts. Des avions sont positionnés un peu partout à travers l'État de Californie et peuvent atteindre les zones d'incendie en quelques minutes, souligne le chef de bataillon Travis Alexander. L'avion est juste un des nombreux outils. Nous avons des équipes au sol, des bulldozers, des compagnies de pompiers et d'autres ressources. Les avions viennent en soutien. Dans une caserne voisine de sapeurs-pompiers, des équipes s'entraînent à la lutte contre les incendies en milieu urbain. Des efforts continus sont déployés pour faire face aux incendies. Cette année, les autorités californiennes ont recruté 300 nouveaux sapeurs-pompiers qui s'ajoutent aux milliers d'autres agents éparpillés à travers l'État et qui ont pour mission de surveiller la situation en cette année qui promet des incendies dévastateurs.
Le journal de la Coupe du Monde au Brésil, tous les jours sur nos antennes avec Bega Sicura, ses invités et bien sûr notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. C'est la grande fiesta au Mexique, mais peut-être de la tristesse au Cameroun.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous. Ça démarre quand même assez mal, un coup dur pour les supporters africains. Le premier représentant du continent à entrer en lice vient d'être battu par le Mexique, 1-0. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino. Nicolas, qu'on vient de perdre, donc il a suivi ce match pour nous. Donc, comme je le dis, le Mexique a battu à la grande surprise le Cameroun, 1-0. Et notre envoyé spécial, Nicolas Pino, va revenir sur ce match dans quelques instants. Chérubin, vous avez aussi suivi le match, hein?
Oui, on avait placé beaucoup d'espoir en cette formation camerounaise qui, il faut le dire, paraît plus solide que les autres formations africaines. Mais malheureusement, les Camerounais n'ont pas évolué comme on s'y attendait.
Oui, on a été surpris parce qu'il y a deux semaines, vous vous rappelez, ils ont joué contre la Mannschaft en Allemagne où ils ont fait un très beau match nul, 2-2. Et tout le monde s'attendait donc à ce que... l'équipe camerounaise ouvre les hostilités sous de meilleurs jours, mais ça a quand même mal tourné, quoi. Donc, on va retourner à...
Je crois que nous avons Jules.
Oui, nous avons Jules. On n'a pas encore Nicolas Pinault. Et donc, Jules, à Libreville, vous êtes un de nos grands consultants, un de nos grands spécialistes du football. Vous avez suivi le match. Comme je disais tout à l'heure, on comptait beaucoup sur le Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir?
Oui, ce qui n'a pas marché, c'est que les Camerounais ont trop respecté l'adversaire et ont craint le jeu très technique des Mexicains qui savent jouer dans les espaces et surtout bouger les grosses défenses et lancer des balles très dangereuses derrière les défenses. Donc les Camerounais n'ont pas osé monter suffisamment, sont montés très très prudents et même lorsqu'ils étaient menés, c'est sur les coups de pied arrêtés et quelques rushs qu'ils ont comptés. Je crois que c'est surtout parce qu'il y avait une très formidable opposition de style et que là, ma foi, les Camerounais ont laissé le jeu à l'adversaire.
Alors, ils ont été dominés de bout en bout, hein, du début jusqu'à la fin. On n'a pas vu les Camerounais rugir à aucun moment.
Oui, parce que justement, ils ont choisi de jouer bas. Pour éviter d'avoir des balles dans le dos, comme je viens de le dire, ils ont choisi de jouer bas et ont compté plutôt sur le jeu, sur le couloir. Or, le couloir droit n'a pas bien fonctionné. Le jeune Dionko a d'ailleurs été changé à la 45e minute, remplacé par un défenseur qui, lui, ne monte pas, un véritable défenseur à l'ancienne, Nouke. Et donc, finalement, les Camerounais ont cherché plutôt à jouer au chat, à la souris, gagner du temps, parce qu'ils étaient à court aussi physiquement. Les Mexicains les ont trop fait courir. Il y avait la chaleur, il y avait la pluie aussi. Et donc, finalement, c'est un non-match pratiquement pour les Lions des Notables, qui ont plus de chances contre des équipes qui jouent à l'européenne. Même le Brésil actuel est une équipe plutôt européenne.
Jules, vous restez avec nous.
Alors, Jules, faut-il culpabiliser Finke, l'entraîneur, dans cette défaite?
Oui, il faut dire que l'entraîneur n'a pas trouvé d'alternative. Et rapidement, il a prévu faire des changements juste, on dirait, pour laisser passer le temps. Parce qu'à un moment donné, il fallait demander aux Camerounais de presser beaucoup plus haut, d'empêcher les Mexicains d'être à l'aise dans la préparation des actions, donc d'empêcher les défenseurs de participer à l'animation du jeu. Ça n'a pas été le cas et donc je crois à ce moment les Mexicains, à leur tour, allaient reculer.
Voilà, Jules, vous restez avec nous. On va partir tout de suite au Brésil où Nicolas Pinault, notre envoyé spécial, est en ligne. Bonsoir Nicolas.
Allô Nicolas?
Apparemment Nicolas ne nous entend pas. On va rester donc avec Jules. Comment est-ce que les Camerounais peuvent gérer les prochains matchs?
Jules Valentin Gué, vous nous écoutez?
Oui.
Alors oui, les prochains matchs.
Je vous entends. Allô, Bagassi.
On a finalement Nicolas Pinault. Alors attendez, Jules. Nicolas est en ligne. Nicolas, vos impressions en direct du Brésil? Peut-être un retard de signal, Bagassi.
Oui. Alors, on va retourner à Jules, hein, qui, lui, n'a pas ce retard. Jules, on va vous reprendre. La question, c'était comment le Cameroun va gérer les prochains matchs?
Non, mais là, il n'a plus le choix. Le compte de la Croatie, c'est un qui tout double pour les deux équipes. Bon, le Cameroun a un avantage, n'a encaissé qu'un but. Bon, mais c'est un qui tout double. Les deux équipes vont jeter tous leurs atouts sur le terrain. Et tant mieux pour les Camerounais, c'est une équipe européenne qui est dans leur style de jeu. Le jeu sera physique et rythmé sûrement, et un peu comme on l'a vu pendant certains matchs de préparation.
Alors, Jules, vous restez avec nous et on va revenir sur le match d'ouverture hier qui a opposé le pays organisateur au Brésil, qui l'a remporté 3-1. Et il faut dire que le Brésil, où il y avait quand même avant ce match des manifestations de rue, Je crois que cette large victoire a permis de quand même calmer cette tension sociale. Et notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino, a suivi cette rencontre pour nous. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Bagassi.
Alors, vous avez suivi le match à partir de Sao Paulo. Comment était l'ambiance?
Ah, évidemment, beaucoup de gens dans les rues pour suivre ce match. Tous les bars étaient pleins, les rues étaient presque désertes. Il faut savoir, Bagassi, que pour l'occasion, ce match d'ouverture, le jeudi 12 juin, était jour férié spécialement dans la ville de Sao Paulo pour les habitants. Donc c'est vrai que tout le monde était très, très, très mobilisé. Alors il y a eu des frissons, notamment l'angoisse après le premier but contre son camp de la Seleção. Et puis Neymar, le sauveur, auteur d'un doublé qui a évidemment redonné le sourire aux Brésiliens avant la conclusion par un troisième but. Une victoire un petit peu étriquée, le pénalty plus que douteux accordé au Brésil sur une faute pas très évidente sur l'attaquant Fred est encore dans tous les esprits. Mais évidemment, Bagassi, hier soir à Rio, évidemment, les manifestations ont continué et ont perturbé un
tout. Justement, concernant ces manifestations, est-ce que la victoire de l'équipe nationale a quelque peu fait oublier ces tensions sociales?
Oui, Bagassi, évidemment, le cœur était à la fête, mais le mouvement social qui est en cours depuis plusieurs mois au Brésil ne va pas s'arrêter avec ce match d'ouverture. Alors c'est vrai, la grève, pour le moment, n'a pas repris à Sao Paulo, mais par exemple, hier soir, à Copacabana, là où se trouve la retransmission officielle pour les habitants de Rio, eh bien cette retransmission a été légèrement perturbée par quelques manifestants contre la Coupe du Monde. Donc vous le voyez, cette victoire ne fait pas tout oublier. Et puis hier, évidemment, dans la journée avant la cérémonie d'ouverture, il y avait eu quelques violences à Sao Paulo où je me trouvais. Et la police a dû faire usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser les manifestants les plus violents qui s'en sont pris notamment à du mobilier urbain. Mais aujourd'hui, tout le monde ne pense qu'à la victoire et notamment au doublé de Neymar.
Vous êtes à Recife justement pour suivre les éléphants qui entrent en lice demain contre le Japon. Un mot sur ce match?
Eh oui, tout à fait. Tout le monde attend avec impatience l'entrée en lice sur le terrain de Didier Drogba et de ses coéquipiers contre une équipe de Japon. Ça ne va pas être le plus facile, évidemment, pour les éléphants qui devront, c'est toujours important, le premier match de Bagassi, vous vous en souvenez, en 2006 et en 2010, ça ne s'était pas très très bien passé pour les éléphants. Donc, cette fois-ci, troisième participation à la Coupe du Monde, il va falloir justement d'entrer gagner pour déjà se donner une marge de manœuvre. Et ça ne va pas être facile, évidemment, contre les Japonais qui, depuis la Coupe du Monde organisée en 2002, ont l'habitude de briller, de ne pas être une équipe facile. Donc, c'est du 50-50. Et aujourd'hui, à Recife, la bande à Drogba aura son dernier entraînement et on aura aussi la conférence de presse.
Merci Nicolas Pino. C'était Nicolas Pino, notre envoyé spécial au Brésil pour le Mondial 2014. Voilà, Jules, la Côte d'Ivoire joue justement demain. Quels sont vos pronostics?
Non, mais la Côte d'Ivoire a une équipe faite justement pour bien démarrer le tournoi avec une défense qui est son assurance pratiquement tout risque. Et donc, elle va être prudente, elle va commencer, elle sera prudente, elle sera patiente jusqu'à ce qu'elle trouve la faille. Moi, je crois que au vu des forces en présence, les Ivoiriens, s'ils ne gagnent pas ce match, il faudra se demander ce qui n'a pas fonctionné.
Oui, merci beaucoup. C'était Jules Valentin Gué à Libreville, au Gabon, qui nous parlait de ces deux rencontres Cameroun-Mexique, Cameroun qui a perdu donc 1-0 face au Mexique et le Brésil qui l'a remporté hier 3-1 lors du match d'ouverture. Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, justement pour dire que dans quelques instants, c'est les deux concurrents de la finale de l'an dernier, de 2010,
oui,
qui vont se rencontrer,
les Pays-Bas
et l'Espagne. Voilà.
Idrissa?
Oui, je voulais savoir, est-ce que vous allez parler de San Antonio et, de et du Miami Heat?
On est en football, on est toujours en football.
Ok, faisons-lui plaisir, Bagassi. Disons que mon équipe, les San Antonio Spurs, ont brillamment remporté leur rencontre hier soir, la quatrième de la série finale de la NBA face au Miami Heat. San Antonio mène par 3-1 pour Miami.
Et c'est pas très encourageant pour Miami.
C'est presque gagné.
Ce n'est pas fini.
Tant que c'est pas fini.
Donc attendons le 7e match.
Merci. Le journal de la Coupe du Monde et plus par Bagassi Koura. c'est la fin de cette édition. Le Monde aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph avec l'assistance technique de Vasco Volarich. Écrivez-nous sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. À la présentation, c'était
Rissa Sedoudia
et Chérubin Dorsil.